poésie de ses contemporains. Magnifique. Il fut abasourdi d'apprendre que ce Laouti était en réalité un orientaliste français et fit publier quelques-uns de ses textes dans des revues influentes. Ce succès me rendit fou de jalousie. Même interné à des milliers de kilomètres, Lyautey s'arrangeait pour me rendre la vie impossible. J'aurais dû détruire toutes ces maudites lettres au lieu de me contenter d'en jeter seulement quelques-unes aux flammes. En mars, au moment où le printemps revenait, où le nouvel an iranien consacrait l'an 1 de la révolution, au moment où l'espoir de tout un peuple grandissait avec les roses, espoir qui brûlerait aussi sûrement que les roses, alors que je faisais des plans pour épouser l'objet de ma passion, ce stupide recueil, à cause de l'estime de quatre intellectuels, renforçait le lien entre Azra et Fred. Elle ne parlait plus que de cela. À quel point un tel avait apprécié ses poèmes, comment l'acteur machin allait lire ses vers dans une soirée organisée par tel ou tel magazine à la mode. Ce triomphe donnait à Azra la force de me mépriser. Je sentais son mépris dans ses gestes, dans son regard. Sa culpabilité s'était transformée en une haine méprisante envers moi et tout ce que je représentais, la France, l'université. J'étais en train d'intriguer pour lui obtenir une bourse de thèse afin que, à la fin de mon séjour en Iran, nous puissions rentrer ensemble à Paris. Je voulais l'épouser. Elle envoyait tout promener avec mépris. Et pire encore, elle se refusait à moi. Elle venait jusqu'à mon appartement pour me narguer, pour me parler de ses poèmes, de la Révolution et me repoussait. 2 mois plus tôt, je la tenais contre moi. Et à présent, je n'étais plus qu'un déchet abject qu'elle rejetait avec horreur. Gilbert renversa son verre en chassant d'un geste trop ample les oiseaux qui s'étaient enhardis à picorer les miettes de sucrerie jusque sur la table. Il se resservit aussitôt et sécha son petit godet d'une lampée bien sentie. Il avait des larmes dans les yeux, des larmes qui ne paraissaient pas provenir de la violence de l'alcool. Sarah s'était rassise. Elle observait les deux oiseaux voleter jusqu'au couvert des arbustes. Je savais qu'elle balançait entre la compassion et la colère. Elle regardait ailleurs, mais ne partait pas. Morgan restait silencieux, comme si l'histoire était terminée. Nassim Khanum a soudain réapparu. Elle a retiré les tasses, les sous-tasses, les coupelles de candy. Elle portait un roupouche bleu foncé, noué fort sous le menton, une blouse grise à motif brun. Elle n'a pas adressé un regard à son employeur. Sarah lui a souri. Elle lui a rendu son sourire, lui a proposé du thé ou de la limonade. Sarah l'a gentiment remercié de ses efforts à l'iranienne. J'ai réalisé que je mourais de soif. J'ai vaincu ma timidité pour demander à Nassim Khanum un peu de limonade. Ma phonétique persane était si terrifiante qu'elle ne m'a pas compris. Sarah est venue à mon secours, comme d'habitude. J'ai eu l'impression, ô combien vexante, qu'elle répétait exactement ce que je venais de dire, mais cette fois-ci, Nassim Khanum comprit instantanément. J'imaginais sur le champ un complot par lequel cette dame respectable me rangeait du côté des hommes, du côté de son terrifiant patron qui restait toujours silencieux, les yeux rougis de vodka et de souvenirs. Sarah aperçoit mon désarroi vexé, l'interprète mal. Elle me fixe un moment comme si elle me prenait la main pour nous extraire de la boue tiède de cette fin d'après-midi. Et cette tendresse soudaine tend si fort les liens entre nous qu'un enfant pourrait jouer à l'élastique avec. Au milieu de ce jardin sinistre, brûlé par l'été. Morgan n'avait plus rien à ajouter. Il remuait son verre encore et encore, les yeux dans le passé. Il est temps de partir. J'ai tiré sur ces fameuses cordes invisibles et Sarah s'est levée en même temps que moi. Merci, Gilbert, pour ce magnifique après-midi. Merci, merci. J'engloutis le verre de limonade que Nassim Khanum vient d'apporter. Gilbert ne se lève pas.